Vous écoutez France Musique.
Bonjour à tous, c'est le matin des musiciens. Ou plus exactement, l'été du matin des musiciens, et même sous-titré par mes soins, les bonus du matin des musiciens, puisqu'au cours de cette série que je vous présente cette semaine et la semaine prochaine, eh bien, je reviens chaque jour sur une émission de la saison passée, et je vous propose notamment d'entendre intégralement des œuvres dont nous n'avions entendu que quelques extraits, ou bien j'ajoute quelques œuvres que nous n'avions pas écoutées au cours de ces émissions. Donc, ce sont des bonus dans tous les sens du terme. On va commencer par une œuvre qu'aimait Britten, puisque le sujet c'est cela, Britten en Amérique, parti en tant qu'objecteur de conscience, parti aux États-Unis au moment de la déclaration de la guerre, ce qui d'ailleurs lui vaudra quelques soucis en Angleterre. C'était un peu mal vu, on lui voulut que le compositeur reste avec ses compatriotes et participe à l'effort de guerre d'une manière ou d'une autre. Et lui, qui était vraiment intellectuellement, profondément, éthiquement un pacifiste, eh bien, décide de rejoindre d'ailleurs une colonie de quelques amis américains, notamment des écrivains, qu'il va rejoindre aux États-Unis. Il va s'installer, il va passer par le Canada, il va s'installer à New York, et puis il va faire un séjour afin de ce moment passé en Amérique, en Californie. On y reviendra un peu plus tard. Voici une œuvre qui n'est pas de Britten, pour commencer. C'est une œuvre d'Aaron Copland, qui était l'un de ses amis là-bas, même si Copland, dans une lettre à Bernstein, dira que Britten était un homme difficile d'approche. C'était quelqu'un qui pouvait être tout à fait aimable, mais dont il était difficile de percer l'intimité d'une certaine manière. Et il était assez difficile, et beaucoup de gens diront cela d'ailleurs au cours de leur existence à propos de Britten, que c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas vraiment au fond. Et Britten admirait beaucoup Copland. Il le considérait non seulement comme le premier compositeur américain de cette époque, mais il le considérait aussi comme, avec Shostakovich et quelques rares autres, comme l'un des très grands compositeurs de son époque. Voici une œuvre qu'il aimait. C'est une œuvre de Copland qui est assez peu connue et qui servira un peu de modèle d'une certaine manière à Britten pour des ouvertures de concerts de la sorte. Il y a une ouverture américaine, par exemple, qu'a écrit Britten à la même époque et dont le style peut s'apparenter à celui de Copland. Voici cette Outdoor Overture, c'est-à-dire une ouverture de plein air. C'est l'Orchestre Symphonique de Londres qui est dirigé par le compositeur Aaron Copland. Un portrait de l'optimisme américain en musique, c'est celle d'Aaron Copland. C'est cette Outdoor Overture, c'est-à-dire une ouverture de plein air, une œuvre de 1938, écrite donc juste avant l'arrivée de Benjamin Britten aux États-Unis. C'était le compositeur Aaron Copland qui le dirigeait à la tête de l'Orchestre symphonique de Londres, une sorte, oui, d'emblème de musique américaine, mais aussi, je le disais, assez proche de la musique de Britten. Ce mouvement de marche, par exemple, qu'on entend là, on l'entend très souvent dans la musique de Britten, qui utilisait énormément ces figures martiales dans sa musique, musique d'orchestre, l'opéra, musique de chambre, etc. Aux États-Unis, où il va rester d'avril 1939 à avril 1942, c'est à ce moment-là qu'il reprend le bateau pour rejoindre les États-Unis, donc vraiment en pleine guerre pour le coup. Britten va écrire pas mal de musique. Alors ce ne sont pas toutes des œuvres de premier plan, et puis il y a parmi ces œuvres quand même des chefs-d'œuvre, on y reviendra demain, des œuvres qui sont couramment jouées évidemment. Et puis il y a des œuvres qui ont été ébauchées, qui n'ont pas été terminées. Par exemple, tout à fait regrettable, il me semble que Britten n'ait pas continué l'écriture d'un concerto pour clarinette que lui avait commandé Benny Goodman, le grand clarinettiste qui jouait beaucoup de jazz, mais qui commandait énormément de musique aux compositeurs dits savants, non pas que ceux du jazz ne le soient pas, mais il a demandé évidemment de la musique à Stravinsky, à Bartok, on le sait, et il avait commandé à Britten un concerto. Britten va ébaucher le premier mouvement de ce concerto, et puis une fois rentré en Angleterre, eh bien, il ne va pas le poursuivre. En revanche, les ayants droit de Britten ont demandé à Colin Matthews, qui est lui-même un très bon compositeur d'une beaucoup plus récente génération, qui a été l'assistant de Britten à la fin de sa vie, lui a demandé de compléter ce mouvement et de l'orchestrer. Voici ce à quoi aurait peut-être ressemblé le premier mouvement de ce concerto pour clarinette que vous allez entendre par Dame Thea King à la clarinette, l'English Chamber Orchestra, dirigé par Barry Wadsworth. Thank you. ça fait un peu mal au cœur de savoir que Britten avait ébauché ce qui aurait pu être un très très beau concerto du répertoire pour les clarinettistes. S'il en est qui nous écoutent aujourd'hui et qui ignoraient cette pièce, qui, il faut bien le dire, est assez méconnue, ils doivent peut-être se manger les ongles de dépit en se disant tout de même, Britten, ce grand Britten, s'il nous avait rendu une œuvre complète en 3 mouvements probablement, ou en 4 mouvements, qui sait, eh bien cela aurait non pas changé l'histoire de la musique, bien sûr, mais c'est pas ça qui compte. Ça aurait en tout cas apporté sûrement une œuvre de très grande qualité. Premier mouvement, reconstruit, orchestré par Colin Matthews à partir des esquisses de Benjamin Britten, d'une œuvre donc pour clarinette et orchestre, écrite pour Benny Goodman, ébauchée aux États-Unis en 1941-1942 et abandonnée malheureusement par la suite. C'était Dame Thea King qui était à la clarinette, l'English Chamber Orchestra dirigé par Barry Wordsworth. On va maintenant entendre une œuvre qui, elle, a été entièrement écrite aux États-Unis, terminée là-bas et créée là-bas. C'est son premier quatuor à cordes dont je vous avais fait entendre dans l'émission du 21 novembre ou du 2 janvier, je ne me souviens plus, puisque c'était les deux que j'avais consacrés à Britten en Amérique la saison passée, dont nous n'avions entendu qu'un mouvement. C'est une œuvre qui a été créée à Los Angeles le 21 septembre 1941 et par le College Quartet. Voici une très belle version, c'est celle du quatuor Belcea, quatuor britannique, premier quatuor à cordes. Peut-être moins joué que le deuxième. Le troisième est encore moins joué que le premier parce que c'est une œuvre très très austère. Mais là, on a déjà évidemment Britten à son meilleur. Thank you.
Thank you.
Le premier quatuor à cordes, merveilleuse œuvre de Benjamin Britten, que vous avez entendu par le quatuor Belcea, écrite lors de son séjour aux États-Unis et créée en Californie en 1942, quelques semaines avant son retour, puisqu'il est rentré en Angleterre en avril 1942, Britten, après un séjour donc de 4 ans aux États-Unis. Et je vous disais tout à l'heure, en début d'émission, que l'un de ses amis sur le Nouveau Continent était Aaron Copland. Et d'ailleurs, ils demanderont, lui, Britten, et son compagnon Pierce, un cycle de mélodies à Copland qui sont ses Old American Songs, c'est-à-dire des arrangements de chansons américaines traditionnelles, connues, et que Britten et Pierce créeront d'ailleurs au festival d'Old Bra, largement après la guerre. Et je vous propose d'entendre, non pas d'enregistrement par Pierce et Britten, je ne sache pas qu'il en existe, mais en revanche par celui qui les a créés aux États-Unis, c'est le baryton afro-américain William Warfield, qui est un très très bon chanteur. Vous allez l'entendre dans deux extraits de ses Old American Songs. Il est accompagné par Aaron Copland au piano.
Says fiddle-i-fee. I bought me a duck, my duck pleased me. I fed my duck under yonder tree. My duck says quack, quack. My cat says fiddle-i-fee. I bought me a goose, my goose pleased me. I fed my goose under yonder tree. My goose says paw, paw. My duck says quack, quack. My cat says fiddle-i-fee. I bought me a hen, my hen pleased me. I fed my hen under yonder tree. My hen says shimmy shack, my goose says quack, quack, my duck says quack, quack. My cat says fiddle-i-fee. I bought me a pig, my pig pleased me. I fed my pig under yonder tree. My pig says griff-reek, griff-reek. My hen says shimmy shack, my goose says quack, quack, my duck says quack, quack. My cat says fiddle-i-fee. I bought me a cow, my cow pleased me. I fed my cow under yonder tree. My cow says moo, moo. My pig says griff-reek, griff-reek. My hen says shimmy shack, my goose says quack, quack. My duck says quack, quack. My cat says fiddle-i-fee. I bought me a horse, my horse pleased me. I fed my horse under yonder tree. My horse says neigh, neigh. My cow says moo, moo. My pig says griff-reek, griff-reek. My hen says shimmy shack. My goose says quack, quack. My duck says quack, quack. My cat says fiddle-i-fee. I bought me a wife, my wife pleased me. I fed my wife under yonder tree. My wife says honey, honey. My horse says neigh, neigh. My cow says moo, moo. My pig says griff-reek, griff-reek. My hen says shimmy shack. My goose says caw, caw. My duck says quack, quack. My cat says fiddle-i-fee.
Deux extraits des Old American Songs de Aaron Copland qui ont été commandés à Aaron Copland par Peter Pears, le ténor, et Benjamin Britten, et qu'ils ont créé au festival d'Old Bra. C'est un recueil qui date de 1950. Il y en aura un deuxième, écrit deux années plus tard, avec d'autres chansons américaines connues ou moins connues, en tout cas très connues là-bas, peut-être moins connues par ici, mais en ça assez connues des millions anglo-saxons. Et là, vous l'avez entendu par celui qui les a enregistrés pour la première fois sur disque. Ça date de 1951. Et c'est William Warfield, qui était un baryton qu'adorait Copland, très très bon chanteur, également comédien, 10 heures, très connu pour sa diction et qui a eu une très très belle carrière aux États-Unis et qui a été un professeur respecté, et c'était Copland qui l'accompagnait au piano. On va terminer cette émission de Britten sur Britten en Amérique par une œuvre qui est une œuvre importante de son catalogue, c'est son concerto pour violon et orchestre, et c'est une œuvre qui porte le numéro d'opus 15, qu'il a ensuite révisé à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Elle est proprement transatlantique, puisque figurez-vous que Britten l'a commencé en Europe, après avoir entendu le concerto de Berg qui l'avait beaucoup influencé, et qu'il l'a terminé aux États-Unis où elle a été créée en 1941. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Le splendide concerto pour violon et orchestre de Benjamin Britten, que vous venez d'entendre par une très belle interprétation, celle de Frank-Peter Zimmermann, l'orchestre de la radio suédoise, dirigé par Manfred Honeck, œuvre commencée en Angleterre et terminée en Amérique et créée non pas en 1941, comme je vous l'ai dit, mais en 1940. Merci à Litorchia, Benoît Latil, à Julien Calvas, à Céline Tranouvelle qui m'a aidé à préparer cette émission et à Catherine Prin-le-Gall qui l'a réalisée. Je vous retrouve demain à 11h.